Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, on va réviser un petit peu ce qu'on avait vu il y a 2 semaines pour se remettre un petit peu dans le portrait de ce que le Christ veut dire à son église de Smyrne par l'intermédiaire de son apôtre Jean. Donc, on avait dit, j'avais donné comme titre à cette leçon-là, « Lettre à l'église de Smyrne, sois fidèle même s'il t'en coûte la vie. » Dans le fond, le message que le Seigneur voulait donner à l'église de Smyrne, c'était justement ça. « Sois fidèle même s'il t'en coûte la vie. » Alors, on arrive dans des temps difficiles. Il y a certains pays que pour vivre ta foi, ça peut t'amener à donner ta propre vie. Et à cette époque-là, c'était vraiment... c'était risqué. Dans des villes comme ça, où il commençait à y avoir de l'adoration de l'empereur, où les cultes à toutes sortes de divinités païennes se multipliaient. C'était vraiment dangereux parce que ça pouvait t'amener à un point où l'intolérance... Il y avait des ennemis qui venaient de tout partout. Il y avait des ennemis juifs. Les pires ennemis des chrétiens de l'époque, c'était les juifs. Après, c'était les Romains. Quand on regarde ça, c'est une constante, parce que quand on regarde l'histoire dans le temps de Jésus, c'est qui était les religieux, entre guillemets, là, ça a toujours été les pires ennemis des chrétiens. Intéressant de retenir cette idée-là. Alors, lettre à l'église de Smyrne, sois fidèle même si le temps coûte la vie. On avait vu un petit peu l'histoire, sans la redire, l'histoire de Polycarpe. Alors, Polycarpe, c'était probablement quelqu'un qui était dans l'église de Smyrne au moment où Jean a écrit sa lettre à cet endroit-là. Lui, c'est en 80... On croit que l'Apocalypse aurait été écrit en 95. Et lui a été... c'était un petit peu des années plus tard, je me souviens plus quelle année, là, en 155. Donc, à quelque part, c'était probablement un homme qui était dans l'église de Smyrne, qui est plus tard est devenu l'évêque, donc le pasteur de l'église de Smyrne. Donc, Polycarpe a vraiment eu une vie assez spéciale, parce que là, c'était rendu que le culte à l'empereur s'était énormément développé. C'est qu'il fallait que tu fasses ta petite offrande d'encens devant l'empereur, puis il fallait que tu renonces à Christ. Si tu faisais pas ça, c'était plusieurs solutions. L'emprisonnement, ou c'était aux bêtes, t'envoyais aux bêtes manger par les lions, ou ben non, par des jours affamés. Ou ben non, c'était le bûcher, ou c'était faire de toi une chandelle, ou de ce style de choses-là. Alors, on sait qu'il fallait qu'ils disent, lui il avait refusé, cet homme-là, Polycarpe, en 55, il avait refusé de dire « César est Seigneur ». Pour sauver ta vie, tu avais juste à dire « César est Seigneur ». Ça n'a pas l'air beaucoup, hein? Mais c'était tout, dans le fond. Alors, Polycarpe, il avait répondu, il l'avait emmené dans le stade, puis il dit « Jure, on va leur dire, elle est tellement bonne, cette petite histoire-là ». Le proconsul l'avait apprécié en ces termes, « Jure et je te laisse aller, maudit le Christ ». Polycarpe répondit, « Je l'ai servi 86 ans, et il ne m'a jamais fait tort. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? » Sur l'insistance du proconsul, le vieil homme répliqua, « Puisque tu insistes inutilement pour me faire jurer par le nom de César et que tu, prétends ne pas me connaître, laisse-moi te dire avec force que je suis un chrétien. » Au bout d'un moment, le proconsul lui répondit, « J'ai des bêtes et je te livrerai à elles si tu ne changes pas d'avis. Puis, je te ferai brûler par le feu, puisque tu méprises les bêtes si tu ne changes pas d'avis. » Mais Polycarpe dit simplement, « Tu me menaces d'un feu qui brûle un moment et peu de temps après s'éteint, car tu ignores le feu du jugement à venir et du supplice éternel réservé aux impies. Mais pourquoi tarder? Va, fais ce que tu veux. » Peu après, le peuple, les Juifs en particulier, selon la tradition, se mit à amasser des fagots et Polycarpe mourut ainsi sur le bûcher. Les premiers qui ont commencé à ramasser des branches, c'est les Juifs. Les Juifs détestaient les chrétiens. Que pour eux, ils faisaient passer le message aux Romains que les chrétiens, c'était des adorateurs d'un criminel qui a été crucifié. Parce qu'à l'époque, les Romains, quelqu'un qui était crucifié, c'était un grand criminel. Fait qu'il t'a dit, les chrétiens, c'est des adorateurs d'un criminel. Alors, il faisait passer ses... Alors, les accusations... On voit que les enfants de Satan ressemblent à leur maître. Satan, c'est un calomniateur, donc il dit des choses. Il passe son temps à nous accuser, nous. Et ceux qui lui appartiennent font exactement la même chose. Alors, il ne faut pas se surprendre si aujourd'hui, il y a des gens qui se disent croyants, qui sont des religieux, puis qui attaquent les chrétiens d'une façon extrêmement virulente. Alors ça, c'est William Hendrickson, dans son livre « Apocalypse jusqu'à vainqueur », qui raconte cette histoire-là. Donc, à quelque part, ce que je voudrais rappeler, c'est que qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? On est dans Apocalypse, on a vu le premier chapitre. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu faire à l'ensemble des églises qu'il y avait à cette époque-là? Éphèse, Smyrne, Pergame, etc., les sept églises qui sont mentionnées dans les trois premiers chapitres. Qu'est-ce qu'il voulait faire, le Seigneur? L'Église traversait des moments extrêmement difficiles. Je peux vous dire une chose, là. Si, du jour au lendemain, il rentrerait des policiers ici et dirait « Si tu renonces pas à ton sauveur, là, on te tire de ça. » Combien il y en a qui diraient « Ben, tire. Moi, je renoncerai pas. » À quelque part, il faut voir l'urgence de la situation, la gravité de la situation pour comprendre comment le Seigneur intervient et pourquoi. Il veut leur rappeler des choses qui le concernent. Alors, c'est sûr que les églises qui avaient à cette époque-là avaient déjà une compréhension de la personne de Christ. Je ne veux pas dire qu'ils ne connaissaient rien sur Jésus, là. Ils connaissaient plein de choses. Mais il y avait besoin d'élargir un petit peu leur compréhension pour s'ajuster à ce qu'ils vivaient à cette époque-là, c'est-à-dire un climat de persécution, un climat de menace de mort si tu persévères à croire en Jésus. Et qu'est-ce qu'il y avait besoin de leur rappeler, ou du moins d'agrandir leur conception? Il y avait plusieurs choses. Il y avait d'abord qu'il voulait leur rappeler qu'il était le Tout-Puissant. Jésus rendu au ciel, il est l'homme-Dieu qui est venu sur la terre, mais à partir du moment qu'il remonte au ciel, il a encore son corps d'homme, mais il est tout-puissant. C'est parce que quand on lit des mots comme tout-puissant ou omnipotent, on ne s'arrête pas à penser à l'ampleur du mot, là. C'est des mots tellement chargés, là, au point de vue du sens, que l'omnipotence, c'est quelque chose... Si tu es dans une situation vraiment bizarre et que tu te rends compte que Jésus est omnipotent, donc il peut agir sur tout de façon comme il veut, la manière qu'il veut, c'est tellement rassurant. Donc, il voulait leur rappeler sa toute-puissance, son omniscience, parce que c'est quand il parle aux églises, il est en train de dire « Je sais, je sais, je sais, je sais. » Comment c'est qu'il peut savoir ça? S'il n'est pas omniscient, donc le fait qu'il sait absolument tout sur toutes les églises et sur tous les individus qui la composent, et non seulement sur tout ça, mais sur tous les individus de la Terre au complet. Et non seulement sur tout ça, mais tout ce qui vit. Son omniscience, son omniprésence. Comment peux-tu parler à la fois des gens qui vivent à Éphèse, des gens qui vivent à Smyrne, alors qu'il y avait des milles, c'est un peu comme si tu dirais, je sais ce qui se passe à Nantes, je sais ce qui se passe à Sherbrooke, je sais ce qui se passe à Montréal. Ça prend quelqu'un qui est présent à tous les endroits pour être capable de faire ça. Donc, il leur rappelait ces choses-là. Il leur rappelait également, parce que c'est important de leur remettre ce qu'il est en train de dire en contexte avec la situation. Il leur rappelait qu'il était le gouverneur souverain. C'est quoi un gouverneur? C'est quelqu'un qui mène un gouvernement. Quand on parle d'un gouverneur, c'est comme un président de pays ou un premier ministre. Il est le gouverneur, il a tous les pouvoirs, il peut faire ce qu'il veut. Moins aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était vraiment important. Donc, il voulait leur rappeler qu'il était un gouverneur, mais un gouverneur souverain. Souverain, ça veut dire que c'est lui qui décide qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se passera pas. C'est important, là, de savoir. Comme là, au-dessus, Polycarpe, il savait qu'il était pour mourir. Le Seigneur, c'est lui qui était pour décider si Polycarpe mourrait comme martyr ou non. Parce qu'ils disent, quelques-uns d'entre vous vont aller en prison. Mais à cette époque-là, aller en prison, c'était simplement la période qui était un petit peu avant de te faire tuer. Il t'a envoyé en prison, mais c'était juste en attendant. En attendant que les bêtes aient encore plus faim. Ou en attendant que le feu soit plus attisé. La prison, c'était un... Alors, le gouverneur souverain et absolu de l'univers et de toute la terre. Ça, là, si on comprendrait ça, on tomberait à genoux d'adoration. De comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, il contrôle tout l'univers. C'est pas juste la terre. Tout l'univers, et il est absolument souverain sur tout cela. Il veut leur rappeler, il leur a rappelé aussi dans la leçon 1, dans le chapitre 1, qu'il était le sacrificateur ou le prêtre. Quel était le rôle du prêtre dans l'Ancien Testament? C'était de prendre une bête, la tuer, vider de son sang, la brûler. Et Jésus était à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Il faut vraiment voir les deux aspects. Il était le sacrificateur et le sacrifice en même temps. Donc, à quelque part, cet aspect-là qu'il avait payé pour les péchés de son peuple, la rédemption était déjà faite. Mais il y a une autre chose qui était le rôle du sacrificateur à l'époque. Et quel était le rôle? Le rôle, c'était celui d'intercéder. Parce que si tu regardes dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, après qu'il avait fait, son rôle était d'intercéder auprès de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait au ciel aujourd'hui? Il intercède pour tous les siens, y compris nous, y compris chacun des individus qui étaient menacés de ou tu renonces à ta foi, ou on te tire aux bêtes, ou on te brûle, ou on te met en prison. Alors, le prêtre, ça veut dire que Jésus est encore dans son rôle de prêtre ou de souverain sacrificateur au ciel. Si on s'arrêtait vraiment à penser à ça, que Jésus lui-même, Dieu Tout-Puissant, au ciel, et il mentionne votre nom, pensez-y là, un peu, là. Il ne dit pas, je veux pas en prendre un, puis je vais m'en prendre moi. Le Seigneur, il parle au Père, puis il dit, prie pour moi, Marcel. C'est moi, ça. Bien, il prie pour chacun de vous autres aussi. Puis il prie pour chacun des saints de toute la terre. Il n'oublie pas un. Ça lui a coûté tellement cher d'acquérir notre âme qu'il ne t'oubliera jamais. Il sait où tu es. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu fais. Il sait ce que tu penses. Il sait comment tu souffres. Il sait tout sur toi. Et il est là. Et il s'occupe de toi. Donc, le prêtre, l'œuvre de rédemption est accomplie. Aussi, il a voulu leur rappeler qu'il était le prophète. Le prophète, c'est celui qui est capable de voir l'avenir Pourquoi il est capable de voir l'avenir? C'est une bonne question, hein? Pourquoi Dieu est-il capable de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir de tout individu ou de toute Église? Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui l'a décrété. Si c'est lui qui l'a décrété, c'est sûr qu'il sait tout ce qui va se passer. Sans que ce soit lui qui soit responsable du péché. Y compris le péché, mais sans que ce soit lui qui soit responsable. C'est ça, c'est un peu difficile à comprendre. Après ça, il veut leur rappeler qu'il est aussi le juge. Quand on parle d'un juge cosmique, c'est la personne qu'il regarde ce qui se passe, il peut laisser certains... Si dans ses décrets, tu vas devenir un martyr, ben, il va laisser les choses, mais il va te fortifier, il va te soutenir durant ces épreuves-là. Moi, j'ai déjà pensé à ça des fois. Qu'est-ce qui arriverait si on me disait, puis ça serait sérieux, Marcel, tu renonces à Christ ici, là, en public, là. Ben là, on te sort dehors, là. On t'attend qu'on prend un poteau pour on met des. On met le feu. Ça serait sérieux. Et là qu'on serait mis à rude épreuve, hein? On verrait si on est sérieux dans notre foi ou non. Ben, un véritable chrétien ne renonçait pas à sa foi. Même au prix de sa propre vie et pas juste sa vie. Des fois, c'est facile de dire, oui, si quelqu'un viendrait me dire, je mettrais un gun sur la tête, puis dirait, tu renonces à Christ ou je te tire? Ben, je dirais, tire. Ça fait pas mal dans la tête, ça fait pas mal longtemps. Mais brûler, ça, c'est une autre affaire. Brûler, ça, c'est une autre affaire. Manger par les jours pour un ours affamé ou un lion attaché, oui, ça, j'aimerais moins ça. Là. Donc, il voulait leur rappeler toutes ces choses-là. Après qu'il leur rappelle toutes ces choses-là, c'est là qu'il commence à lui donner le message à l'Église. La première semaine qu'on a vue, il a parlé à l'Église d'Éphèse. Et qu'est-ce qu'il avait dit à l'Église d'Éphèse? Vous êtes fort en doctrine, vous êtes fort en discipline. Il s'occupait de la discipline dans leur Église. Mais vous avez un petit problème. Vous avez abandonné votre premier amour. L'Église de Smyrne, là, il veut leur faire prendre conscience que eux, le problème est différent. Eux sont riches et sont fidèles malgré tout ce qui se passe autour d'eux. Ils sont riches en biens spirituels, en grâce, en fruits. Alors, le Seigneur veut leur rappeler, quand il leur dit, il sait. Il sait leurs circonstances. Pensez-vous qu'un gars comme Polycarpe, juste au moment où il pouvait être soit envoyé aux bêtes ou soit brûlé, que c'est pas très intéressant de te souvenir que le Seigneur, il sait, puis c'est lui qui va me soutenir. Parce que dans le fond, la force, là, pour traverser des périodes comme ça, les martyrs, là, ça nous fait réfléchir beaucoup, hein. Parce que moi, je sais que je n'ai pas la force pour passer à travers une pareille affaire. Je me fais pas d'illusions du tout sur moi, là. Je sais que moi, je ne l'ai pas. Mais il y a une autre chose que je sais, c'est que le Seigneur, lui, il l'a. Et lui, il est capable de me soutenir à travers tout ça, même si moi, je suis un zéro, puis je ne serais pas capable de traverser ça. Je serais mort de peur. Mais pensez-vous que le Seigneur n'est pas capable de contrôler ma peur mortelle pour me faire traverser un pareil événement, même s'il est rempli de souffrance? Bien sûr qu'il est capable. La preuve, tous ces martyrs-là qui ont traversé l'histoire, non seulement le premier siècle, mais toute l'histoire. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, il y a quelque chose d'intéressant, c'est bien l'histoire de l'Église, parce que ça a été constant, ça, si on voit là. Donc, dans le verset 8, le Seigneur fait une déclaration rassurante à l'Église de Smyrne. Il dit, « Écris aussi à l'ange de l'Église de Smyrne. » Voici ce que dit le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, qui a été mort et qui a repris la vie. Seigneur connaît parfaitement toutes leurs souffrances, connaît parfaitement tous les dangers qui les guettent, et aussi les tribulations que ces gens-là vivent dans l'Église de Smyrne. Et il veut s'adresser à eux. C'est intéressant de se souvenir de comment il procède pour s'adresser à eux. Le premier mot du verset 8, écrit. Le Seigneur ne veut pas que ce soit juste des paroles, il veut que ce soit un écrit. Un écrit, ça reste, vous le savez. Quand quelqu'un dirait « Je vais te vendre mon terrain à côté, ben non, je vais te vendre ma grande ou n'importe quoi », je dirais « On va passer chez le notaire, hein, c'est normal, tu veux que ça soit écrit, tu veux que ça soit… » Ben, lui, le Seigneur aussi travaille, il veut que son peuple… Alors, écrit. Et il lui dit « Écrit à l'ange ». Écrit à qui? L'ange, on a vu dans l'interprétation que l'ange est le pasteur. Donc, écrit au pasteur de l'église de Smyrne. Et il lui dit, écrit à l'église. Écrit à l'église. L'église, ce n'est pas le seul pasteur. L'église, c'est l'ensemble de toutes les de tous les brebis qui vivent dans ce troupeau-là. Écrit au pasteur pour l'église. Très intéressant. Et là, il y a le fameux titre que le Seigneur choisit pour leur parler. Il leur parle d'une façon très soignée et particulièrement adaptée aux circonstances de son peuple qui est dans la souffrance. Et la semaine dernière, on avait vu que comment John Gill voyait le titre Alpha et Oméga, qui est très intéressant. Je ne le reprendrai pas parce qu'on l'a déjà vu. Ceux qui veulent s'en rappeler, ils iront écouter le sermon de la semaine dernière. Mais moi, ce que je veux rajouter cette semaine, c'est ce que je vous ai dit tantôt. J'ai trouvé dans la revue, ça s'appelle Reformation and Revival. Le numéro, c'était sur The Person of Christ, sur la personne de Christ, volume 2, numéro 2, au printemps 1993. C'était une petite revue qu'on publiait aux 3 mois, et qui ramassait des grands auteurs chrétiens réformés, en général, et sur des thèmes. Ils prenaient un thème, la personne de Christ, le Saint-Esprit, les réveils, n'importe quoi. Et il y en a toute une série, ça, ils ont publié ça pendant des années. Et celle-là, je l'ai trouvée intéressante. Quand il dit l'alpha et l'oméga, il faut se souvenir que dans le livre de Hébreux, le Seigneur, il dit... Il s'est révélé dans le passé de différentes manières. Il dit, et en ces temps de la fin, allons-y, Hébreu, très intéressant. Hébreu 1, versets 1 et 2. Hébreu 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Très intéressant la question, il dit, il nous a parlé à la fin par le Christ qui a aussi créé le monde. Créé le monde! Il est en train de rappeler que Jésus... par sa parole puissante, quand il était présent, quand il a eu l'événement. Que la lumière soit. C'est à Christ, ça. Et la lumière fut. Qu'est-ce qu'il veut qu'on réalise? Il veut qu'on réalise que Christ est la révélation de Dieu pour les hommes et capable de... Et aussi, on dit souvent de Christ la parole. On parle de la personne de Christ et on dit la parole. Pourquoi la parole? Pourquoi? Parce que la parole, chose intéressante que je trouvais, je vous reviens là. Dieu a parlé en Christ, a parlé dans la nature. La preuve, dans Romains, on parle que les êtres humains, juste par la nature, ont suffisant de matière pour savoir que Dieu existe. Et il a parlé à travers ses prophètes. Maintenant, le mot « logos », parce que quand on traduit dans Jean 1:1, « et la parole fut chair », quel mot qui est utilisé dans le grec? C'est « logos ». Logos, L-O-G-O-S, c'est le nom de l'écran français. Logos, ça veut dire parole. Mais dans le mot logos, il y a des concepts qui sont tellement puissants. Par exemple, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, puis pour tout ce qui s'est produit au niveau de la création, que les étoiles soient, il faut s'arrêter à réfléchir, mes amis. que les étoiles soient, que l'univers créé soit une parole, pas le bras de Dieu, juste une parole, et ça arrive. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer par ça? La parole, dès qu'elle est dite, elle est accomplie. La personne qui saisit le concept est en train de dire « Jésus nous parle ». Et dès qu'il dit quelque chose, c'est pas comme « ça peut peut-être arriver ». Quand Christ parle, ça arrive. Alors, très intéressant. Autrement dit, pour les Juifs, ça avait deux significations. Il faut se souvenir que les gens de l'époque, les chrétiens de l'époque, tu avais deux catégories de chrétiens qui étaient dans les églises. Tu avais les Juifs, qui étaient des anciens Juifs convertis. Tu avais aussi des Romains ou des Grecs qui étaient rendus au Seigneur. Tu mettais tout ça dans la même salle. À quelque part, pour un Juif, le mot « logos », ça avait la signification de ce que je viens vous dire. Il comprenait que « logos », ça voulait dire « quand quelqu'un parle, la chose existe ». Et pour eux, c'était une référence à la puissance divine dans la création. Que la verdure soit. La verdure soit. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans, là, c'est parce qu'on, des fois, on ne réfléchit pas à toute l'ampleur de ça, c'est énorme. Donc, pour les Juifs, c'était le pouvoir créateur de Dieu et le fait que Dieu se révèle lui-même dans la création. Ça, c'était pour les Juifs. Pour les Grecs, je disais ça, Héraclitus, ça doit être en français, je ne sais pas c'est qui, là. Mais lui, c'était un grand philosophe grec, et il disait, il observait la nature, il disait, par exemple, quelqu'un ne peut pas se jeter en bas d'un pont deux fois à même place. Parce qu'il disait, tout est en perpétuel mouvement. Et si tout est en perpétuel mouvement, comment ça se fait que la rivière, elle demeure une rivière, et toi, tu demeures un être humain, les oiseaux demeurent des oiseaux. Lui, ce qui arrivait, il disait, si tout est en mouvement, comment ça se fait qu'il y a de l'ordre dans la création? Ben, c'est à cause de Jésus. Il dit non seulement qu'il a créé, mais c'est lui qui soutient toute chose. Donc, l'univers n'est pas dans un chaos. L'univers est contrôlé par la main de Dieu. C'est tout ça qui est compris dans le mot « logos ». Donc, l'univers est contrôlé parce qu'il y a une force contrôlante qui contrôle absolument tout. Si vous voyez un oiseau qui vous passe à un pouce au-dessus de la tête, c'est pas un hasard. Le Seigneur, il contrôle toute chose. Alors, pour eux autres, c'est important de se souvenir de ça. Alors, pour les Grecs, puis pour les Hébreux, le mot « logos » voulait dire des choses différentes, mais le Seigneur utilise le mot « logos » parce qu'il savait que dans l'esprit de ces gens-là, dépendamment de ta culture, dépendamment de ton arrière-plan, ça voulait dire des choses différentes. On aurait pu aller beaucoup plus loin là-dedans, mais on va arrêter là. OK, là on était rendu au verset 9 et 10. Donc, si tout va bien dans une église, même s'ils sont très forts, sont très fidèles, ils sont prêts à même se faire tuer, à mourir pour garder leur foi. Le malin, lui, il n'offre pas prise facilement. Lui, il veut décimer. Décimer, ça veut dire briser, détruire l'Église, l'affaiblir, la ramener dans le paganisme, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il dit, le verset 9 et 10? On va lire 9 et 10, mais la première partie du verset 10. Alors, il dit, le Seigneur, il dit, « Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté. » Puis là, il dit, en parenthèse, il y a un mot, « quoi que tu sois riche. » Autrement dit, la notion de pauvreté et de richesse, c'est quelque chose de bien relatif. Tu peux être pauvre physiquement, tu n'as pas d'argent, mais aux yeux de Dieu, tu es riche. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche. Et il dit, je connais aussi les calomnies. Qu'est-ce que c'est une calomnie? C'est de dire des faussetés sur quelqu'un que tu sais qu'ils sont faux, mais t'es dit pareil. Et il dit, les calomnies de ceux qui se disent juifs, qui ne sont point, qui sont une synagogue de Satan. Une synagogue, c'est une assemblée de Satan. Il dit, les juifs, là, qui n'ont pas cru à Jésus, qui sont aujourd'hui vos ennemis, c'est une assemblée de Satan, qui sont contrôlés par Satan. Autrement dit, Satan se servait de ces juifs-là, non-croyants, au Messie qui était venu, et il les utilisait pour être les ennemis des chrétiens. Et dans le verset 10, c'est intéressant ce qu'il leur dit, il dit, « Ne crains rien. » Si on serait dans une situation où on pourrait être brûlé ou jeté aux animaux, et verra, puis il y aurait quelqu'un qui viendrait nous dire, « Oh, ne crains rien. » Nous, ça dépendrait, c'est qui me le dirait, là. Si ce serait quelqu'un de l'Église, je dirais, « Ben là, peut-être que... » Mais si c'est le Seigneur Jésus-Christ, en se rappelant de ce qu'on a dit au chapitre 1, il dit, « Ne crains rien. » C'est qu'il va te soutenir dans ton œuvre. Il dit, « Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. » Moi, ce que j'aime du Seigneur Jésus, c'est que c'est pas un menteur. Ouais. Il n'est pas en train d'y dire, tu ne seras pas un martyr, car j'ai le pouvoir que tu ne sois pas un martyr et tu ne le seras pas. Que tu auras à souffrir, ne crains rien de ce que tu auras à souffrir. Il n'est pas en train de lui cacher la vérité comme de quoi qu'il va traverser quelque chose qu'il va trouver extrêmement difficile à le vivre. Puis là, il lui dit, c'est qui est la source, qui est en arrière de tout ça? Voici... Le diable va jeter en prison quelques-uns de vous. Il n'est pas en train de dire, si vous renoncez pas, toute la gang, vous allez aller en prison, puis toute la gang, vous... Il savait, le Seigneur, qui irait, qui irait pas. Quelques-uns. Le Seigneur, il savait, sur un gros groupe de chrétiens de Smyrne, le Seigneur aurait pu dire, lui, elle. Les autres, ils n'iront pas. Pourquoi? Dieu nous donne pas de compte. Je vais jeter en prison quelques-uns d'entre vous. Afin, ce qui est intéressant, c'est de voir la raison. Il va t'envoyer aux bêtes, puis il va t'envoyer de fibres brûlées attachées pour un poteau. C'est une épreuve. Je trouve que c'est une grosse épreuve. Mais je trouve pas. Elle est pas mal à pic comme épreuve, là, comme on dit. Et vous aurez une affliction de 10 jours. Mais les commentateurs que j'ai utilisés s'entendent tous pour dire que c'est fort probablement pas 10 jours littéraux. C'est symbolique pour vouloir dire vous allez connaître des difficultés pour une courte période de temps. Moi, ce que j'ai lu, la plupart des auteurs disent que c'est pas nécessairement pour 10 jours. Parce que 10 jours, ça aurait été vite passé, là. Parce que vu que ces situations-là se sont répétées dans l'histoire à maintes et maintes reprises. Alors, il est impératif que les élus de l'Église de Smyrne voient clairement leur situation dans la perspective que Christ lui-même les voit. Quand il leur dit, c'est une appréciation qui est divine, étant omniscient, omniprésent, quand il dit, je connais tes œuvres, tout ce qui se passe dans l'Église de Smyrne, peu importe que ce soit une petite œuvre, une grosse œuvre, il est au courant. Ensuite, il leur dit, et ta tribulation. La tribulation, c'est quoi? C'est tes misères. Te faire mettre en prison, te faire manger par les bêtes, perdre ta job à cause que tu crois en Jésus, etc., etc. La tribulation, c'est des souffrances physiques, morales, des souffrances de toutes sortes. Le Seigneur, il dit, je sais ce que tu passes à travers. Fais-toi-en pas. Après ça, il dit, et ta pauvreté. Probablement que l'Église de Smyrne, à cause de la ville dans laquelle il vivait, et que tu ne pouvais pas t'affirmer comme chrétien au risque de perdre ta job, de ne plus pouvoir exercer ton métier, tu devenais pauvre, mon ami. Puis il dit, je connais ta pauvreté. Puis là, il dit, quoique tu sois riche. Là, on parle de pauvreté physique. Puis l'autre, il parle de richesse spirituelle. On ne parle plus le même langage. Et il leur dit aussi qu'il connaît les calomnies. Autrement dit, le Seigneur est au courant de tout ce que les Juifs disent contre vous, mais qui sont des faussetés. Une calomnie, c'est quelque chose que tu dis contre quelqu'un, puis tu sais que c'est pas vrai, mais tu le dis pareil. Quand tu dis des chrétiens de l'époque, si tu disais aux Romains qui étaient dans la même ville que toi, « Oh, ben c'est des adorateurs d'un criminel qu'on a mis sur une croix. » Un criminel de la pire espèce, parce qu'on ne crucifiait pas n'importe qui dans le temps des Romains. Là. On crucifiait les pires criminels qui pouvaient exister. Puis il disait, c'est des adorateurs de criminels qu'on a envoyés sur une croix. Êtes-vous pour avoir de la tolérance pour ces gens-là? Il poussait les Romains et les gens de Smyrne à être encore plus sévères envers eux. Donc, ils accusaient les chrétiens de faire partie d'une secte qui adorait un criminel qui avait été cloué sur une croix. Et il les accusait aussi de déloyauté politique. À cette époque-là, les Romains, les empereurs, ils ne riaient pas, comme on dit. Et s'ils demandaient qu'on adore, et si tu n'adorais pas, il y avait des conséquences à tes actes. C'était pas comme aujourd'hui. Donc, le verset 10 nous montre, quand il dit « Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir, voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une affliction 10 jours. » Alors le Seigneur veut leur rappeler des faits. Fait numéro 1, la persécution et les mises à mort seront prolongées pour un certain temps. Il ne leur cache pas. Deuxième fait. Le diable va provoquer des emprisonnements. Voici, le diable va jeter en prison quelques-uns de vous. Seigneur, moi, ce que j'aime du Seigneur, c'est qu'il ne dit jamais des choses fausses. Il ne nous dort jamais la pilule. Il nous dit les choses. J'ai été maltraité, vous allez être maltraité. Il nous dit les choses telles qu'elles sont. Fait numéro 3. Les intentions du diable sont méchantes, tandis que Dieu veut utiliser les actions du malin comme une épreuve. Ça, c'est assez spécial, le fait numéro 3. Le malin, lui, tout ce qu'il veut, c'est ton mal, puis Dieu se sert de ça pour ton bien. La façon de Dieu de transformer les choses du malin, un peu comme quand l'histoire de Joseph. Les frères, ils voulaient du mal à Joseph, puis Dieu le transforme en bien. Mais il est en train de faire la même chose. Polycarpe est mort, brûlé, mais pour Dieu, c'était une façon de démontrer que sa grâce est forte et que même les véritables croyants sont disposés à donner leur propre vie, mais dans des circonstances extrêmement difficiles pour persévérer dans la foi. Et le fait numéro 4, il veut leur rappeler, oui, vous avez une épreuve extrêmement difficile, extrêmement sévère, mais elle va être courte. Si on vivrait une chose semblable à ça, là, que le Seigneur viendrait nous dire, votre épreuve va être courte, pensez-vous que ça nous ferait du bien moralement? On dirait, oui, courte combien? Alors, ça nous dit dans Romains 8, 18, « Car j'estime qu'il n'y a point de proportion divine, de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en vous. » Il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent, à te faire brûler là, avec des fagots, là, avant que la boucane qui... Tu dois être... Ça prend du temps avant que tu meurs, là. Puis le Seigneur, il nous dit les choses qu'on a peine à croire, ça. Parce qu'il dit, j'estime qu'il n'y a point de proportion, ça se compare pas, ce que tu vas vivre avec ce que le Seigneur va te donner quand tu vas traverser dans le ciel. Ça se compare même pas. Il y a une phrase que j'avais lue quelque part, elle disait, le sang des martyrs est devenu la semence de l'Église dans l'histoire. Puis c'est vrai. Je ne sais pas, il y a une petite brochure que j'ai à la maison, je me souviens, ça s'appelle « Le sentier du sang ». C'est un peu un résumé de tout ce que les chrétiens, à travers les siècles, ont vécu de souffrance à cause de leur foi. C'est ça qu'on appelle ça « Le sentier du sang ». Mais souvent, c'était dans les périodes où les chrétiens étaient plus souvent maltraités, où ils perdaient leur propre vie pour garder la foi, que les églises se développaient le plus. Des fois, on se demande, donc, devrais-tu prier pour qu'on soit persécuté? C'est là que les églises grandissent. Ah, c'était spécial là, de faire le lien un petit peu à quelque part. Le sang des martyrs devient la semence de l'Église dans l'histoire. Et les versets 10b et 11, le Seigneur veut qu'ils aient à l'esprit de façon constante qu'est-ce qu'ils ont, quelle est la destination finale. Autrement dit, quand il leur dit, verset 10b, « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Hey, le Seigneur ne nous demande pas un petit peu, là. Puis n'oubliez pas qu'à la fin, il nous dit ce que l'Église dit aux Églises. Il parle aux individus et il parle à l'ensemble des Églises de tous les temps, de toutes les époques. « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Et le verset 11 est intéressant. « Que celui qui a des oreilles, est-ce qu'on en a des oreilles spirituelles? Écoute. » Donc, quand il dit que celui à qui il parle, aux chrétiens individuellement de l'époque, mais il parle aussi aux chrétiens individuellement de tous les temps, dont aujourd'hui. Des fois, on pense, « Ah, oh, c'est ça, c'est le premier siècle, ça n'arrivera jamais. » Ça ne peut pas se reproduire, ça. Pourtant, à l'époque de la Réforme, il y en a eu plein d'affaires comme ça. Puis ça peut revenir encore, puis dans certains pays, ça se produit encore. Il ne faut pas penser que ça n'arrivera pas. Il dit ce que l'Esprit dit aux églises. Le mot « église » qu'elle va regarder dans vos versions, c'est au pluriel. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Les individus des églises, ouvrez vos oreilles, écoutez ce que j'ai à vous dire. Puis il le dit aux églises, donc les sept églises du livre de l'Apocalypse, et aussi toutes les églises de toutes les époques, de tous les pays. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Celui, c'est un individu, les églises, c'est une ensemble de collectivités. Donc le Seigneur parle à tout le monde. Et donc, il veut que garde les yeux fixés sur la vision finale. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Alors, dans sa grâce et sa miséricorde, le Seigneur Jésus-Christ donnera aux élus toutes les grâces nécessaires pour nous maintenir dans le chemin étroit et resserré. Si on arrivait, qu'on traversait quelque chose d'équivalent à ce qu'on aurait vraiment besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour être capable de passer à travers. Alors, donner sa vie pour un être humain, c'est le sacrifice suprême, n'est-ce pas? Parce que quand il y a eu des affaires dans l'histoire, je me souviens d'avoir déjà lu des livres dans le temps de la Réforme, et quand il arrivait des affaires, on demandait, les gens disaient, « Là, là, si tu me donnes ma vie, là, j'ai une fortune quelque part, je vais aller te la donner. » L'être humain est prêt à donner toutes ses possessions pour garder sa vie. On a la confirmation de ça dans Job, chapitre 2, verset 4. « Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Peau pour peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Oui. » Si aujourd'hui on viendrait pour vous dire, « Je vais t'enlever la vie, mais si pour pas t'enlever la vie, il faut que tu me donnes tous tes biens. » Qu'est-ce qu'on choisirait? L'être humain, pour garder sa vie, il est prêt à donner tout. Mais là, le Seigneur te demande plus que tes biens. Il te demande de donner ta propre vie pour demeurer fidèle. On dit comme ils disent, il ne vaut pas que le dos de la cuillère, mon Dieu. Alors, le Seigneur Jésus n'hésite pas à commander à ses élus de lui accorder volontairement ce sacrifice suprême, car les bénéfices que le croyant en retirera sont infiniment plus précieux. Comment un être humain qui vivait à cette époque-là peut-il comprendre qu'une souffrance, disons, mettons-la une demi-heure, là, que c'est qu'il a souffert avant qu'il perde connaissance, là. Cette souffrance-là d'une demi-heure, ça ne se compare pas avec la récompense qu'il va te donner l'autre bord. Quand le Seigneur dit « incomparable », c'est parce que ça ne se compare pas. On a deux versets pour ça dans les Écritures qui nous disent, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. Moi, des fois, les Écritures utilisent des mots, c'est presque de l'humour. « Car notre légère affliction du temps présent... » Des fois, j'ai envie de dire, Légère affliction, paraît pas toi qui a vie, hein? Mais ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente, puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternelles. T'es en train de parler que tu vas traverser l'autre bord, ça va être infiniment merveilleux, puis ça va être pour l'éternité. Romains 8, 18 en parle également. Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Alors, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On parle de comparaison et de proportion. Encore 5 minutes et on termine. Donc, le Seigneur nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, 2 choses à remarquer dans ce verset-là, c'est que le Seigneur s'adresse à des individus et qu'il s'adresse aussi à l'ensemble des églises de toutes les époques, de tous les temps. Et dans le verset 11b, le dernier verset, le Seigneur tient à nous rappeler quelque chose, qu'on va avoir la victoire parce que c'est lui qui va soutenir durant toutes ces choses-là. Il dit, celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Et quelle était la seconde mort? Bien entendu, c'était le lac de feu. Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et leur place ne se retrouva plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu. Et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. La seconde mort, il dit, tu ne connaîtras pas la deuxième mort. La deuxième mort, c'est vraiment la destinée éternelle dans l'enfer. Et quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. 3 applications, on termine là-dessus. La première, rappelons-nous sans cesse que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est un vainqueur. Étant en lui, nous sommes aussi plus que vainqueurs. Rappelons-nous ses fonctions de gouverneur, de prêtre, de prophète et de juge universel. Rappelons-nous aussi ses qualités ou ses attributs, l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence, souveraineté, amour, sagesse, miséricorde, etc. Nous sommes tendrement aimés et entre très bonnes mains. On peut-tu être en meilleure main? Donc, rappelons-nous cela concernant Jésus-Christ. Deuxièmement, rappelons-nous une autre chose concernant Satan, lui. Il est l'ennemi de nos âmes et il multiplie constamment ses efforts pour affaiblir les chrétiens, les troubler, les cribler, les menacer, les faire souffrir, les faire mépriser, leur faire violence et même les faire mourir. Cependant, tout son pouvoir est puissamment contrôlé par le Seigneur lui-même. Dieu se sert de toutes ses attaques et les transforme en épreuves qui fortifient les croyants. Apprenons à faire confiance au Seigneur dans nos combats. Et 3e et dernière application, gardons les yeux fixés sur l'objectif final de la vie éternelle dans le paradis, dans la joie, la félicité et le bonheur. Implorons le Seigneur de nous en donner un désir plus grand et une vision plus éclairée. Demeurons fidèles, même au prix de notre vie. Que notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit béni, loué et adoré éternellement. Amen. Amen.